Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue sur Esprit Occitanie. Pour commenter cette actualité, je suis aujourd'hui entouré de l'équipe habituelle moins un, Léonore Victoria, je vous présente toujours de la même façon, franco-colombienne, spécialiste d'études politiques et chef de projet.
N'oublions pas chef de projet.
Jean-François Mignard, indispensable à la Ligue des droits de l'homme, nous le savons aussi, et nous aurions dû avoir Pierre Larouille qui ce matin nous a dit qu'il était en route vers Marseille, donc on ne sait pas ce qu'il va faire à Marseille, voir le professeur Raoult, voir Mélenchon,
nous resterons discrets, voilà, et nous lui adressons un bonjour amical.
Amical, il est certainement, je ne sais pas, sur la route, dans le train, dans l'avion, je ne pense pas. Bien, mais nous allons œuvrer sans lui et nous allons œuvrer autour de trois sujets. Alors, le sujet d'actualité, les mesures de confinement, de déconfinement et le vaccin et l'attitude des Français par rapport au vaccin, la loi sécurité globale et en troisième sujet, parce que c'est bien de rester strictement hexagonal, mais le monde continue à avancer sans nous. Nous parlerons de l'important accord commercial dit ASEAN, je ne sais pas comment on prononce, ASEAN, et de l'encerclement par la Chine. Et puis, bien sûr, nous aurons en fin d'émission nos rubriques habituelles. Voilà, ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Bien, alors, premier sujet, les mesures de confinement, déconfinement, vaccins, etc., etc. Alors, vous l'avez constaté, la plupart des pays ont éprouvé beaucoup de difficultés à réagir et à s'organiser, sinon pour juguler la pandémie, du moins faire que ses ravages soient limités au maximum. Mais à l'évidence, les mesures prises par le gouvernement français n'ont pas brillé par leur clarté, leur pertinence et leur cohérence. Des commerces fermés, des activités interdites, d'autres autorisées, tout cela, l'on ne sait à partir de quelle logique. Il est vrai que la crise est extrêmement complexe, ne serait-ce que parce qu'elle est multiforme, sanitaire avec le Covid, économique avec une récession historique, une colère sociale qui monte, des problèmes de sécurité avec le terrorisme, etc., etc. Tous les pays sont touchés, mais il semblerait qu'il y ait une exception française et que ce deuxième confinement tourne au désordre pur et simple. Autrement dit, Macron et son gouvernement ont perdu le contrôle avec quasiment 50 000 morts et plus de 2 millions de cas. Contrairement aux affirmations du ministre de la Santé, l'hôpital n'était pas prêt et pourtant, on aurait pu lui donner les moyens de l'être. Par ailleurs, l'économie n'est plus maîtrisée, avec une récession à 11%, 120% du PIB de dette publique, 10% de chômeurs et un plan de relance qui va s'avérer à court terme totalement illusoire. Enfin, il va falloir gérer à présent la vaccination avec des Français donc beaucoup sont réticents à s'y soumettre pour diverses raisons qui sont loin d'être rationnelles. Et cette phase-là de la pandémie est également ratée. Le Covid et ses multiples effets dévastateurs risquent de s'installer pour longtemps dans notre pays. Alors, suggestion que j'avais déjà émise, mais peut-être devrions-nous engager Madame Merkel pour remettre de l'ordre et de l'intelligence dans ce pays, puisqu'il semble qu'on en manque un peu à la tête du pays. Sur cette question, Jean-François.
Oui, alors, c'est difficile de tracer le sillon de l'analyse sur le contexte. On est confronté à mes deuxième vague. Alors, toujours dans une espèce de bruit de fond dans lequel, qui est d'ailleurs très, très péremptoire et descendante, est en règle générale contestée dans la demi-seconde qui suit sur les réseaux sociaux. Alors, bon, c'est une des caractéristiques, je crois, de la crise que nous vivons. Donc, est contestée à la fois par la citoyenne et citoyenne de base, et même des fois qui est infectée par les pires des idées complotistes, des choses comme ça, autrement dit, quand une information est donnée, une décision est prise dans la foulée. Et d'emblée, on assiste à une contestation à la fois de l'information et de la décision, mais pas que le complotiste moyen, j'ai envie de dire, hein, sachant que là aussi, c'est, l'étiquette est un peu molle, mais même des personnes, entre guillemets, dites autorisées. Hein, tout à l'heure, Jacques Lavergne parlait du professeur Raoult à Marseille, mais on a une foultitude de gens maintenant qui sont dans une espèce à la fois de débat permanent, et on assiste. Alors, il me semble que c'est quand même une des caractéristiques de la période, à une espèce de croisement, je vais être un peu grossier, de croisement bordélique, hein, entre quelque chose de l'ordre d'une volonté verticale de gestion, hein, c'est-à-dire on a un président de la République, père de la nation, hein, qui sur le Covid veut jouer la même chose que sur d'autres choses. On y reviendra certainement sur d'autres points qu'on évoquera. Donc ça, avec des comités, des commissaires qui s'appuient sur de la notoriété indiscutable, des gens qui sont réunis dans des comités théodules, qui sont censés rationaliser une position qui est documenter une position politique, voilà, hein, on a cette et ça tombe, hein, quand même, et par ailleurs ça se traduit par des normes, par des obligations, qui sur le terrain se transforment en contrôle, qui se transforment en amende, qui, hein, voilà, etc. On a ça, hein, et d'autre part on est aussi traversé par cette espèce de gigantesque foutoir de l'horizontalité des réseaux sociaux, des choses qui se, des gens qui renaquent, qui le font savoir, etc., etc. Voilà. Et ça rend la chose. Vous l'avez évoqué, cher Jacques Lavergne, votre brillant éditorial, comme d'habitude, d'introduction. Ça rend la chose quasi, si ce n'est quasiment ingouvernable, du moins extrêmement difficile. Ce qui certainement signifie le fait qu'au-delà de la question qu'elle a questionnée, alors on a d'emblée la même chose sur le vaccin. Hein, voilà, on est en train d'annoncer, alors je vous évite la troisième vague, la deuxième vague qui n'a pas existé, la troisième vague qu'on voit arriver à l'horizon, mais dont les gens disent déjà la seconde, ça n'est pas eu, le fait. Bon, bref. Alors déjà, c'est sérieux, hein, les professeurs de médecine et tout, des gens autorisés, des supposés sachants, comme on dit en psychanalyse, voilà. Et le vaccin, ça va être pareil. Enfin, c'est en train de devenir pareil, hein, les gens. Les sondages disent une importante catégorie de la population est à la fois sceptique et ne souhaite pas se faire vacciner. On sait qu'en France, on a quand même un mouvement anti-vaccin qui est récurrent, mais là, on le voit réapparaître. On est, me semble-t-il, dans une période qui montre bien l'impuissance des modalités de gouvernance, hein, des façons de diriger la société, des façons de prendre les décisions. C'est clair que nous ne sommes plus à l'époque où l'autorité centrale fortement légitimés, reconnus par les gens qui les avaient désignés ou à qui ils étaient imposés. Je pense quasiment au roi de France, mais je pense au roi de France parce que je pense à des épidémies comme la peste ou des choses comme ça, hein, je veux dire, et où des mesures extrêmement coercitives pouvaient être prises, hein, et acceptées. Voilà, ça, c'est fini. C'est fini, c'est clair que… Et on ne reviendra pas en arrière, hein, là-dessus. Et on a géré, et les gouvernants, et visiblement ils en montrent l'incapacité, ont à gérer aujourd'hui une demande qui est une demande d'être entendu, d'être convaincu, et de négocier au minima, de débattre les décisions qui sont des décisions imposées. Or, depuis 3 ans, nous sommes de manière quasiment continue dans des régimes entre guillemets d'exception, des états d'urgence, des choses comme ça, hein, dans lesquels on contraint, et on voit bien que la société se cabre, hein, et les choses sont… Je crains que les choses n'aillent pas en s'arrangeant. Je m'excuse d'avoir été un peu long.
Ah ben non, on est là pour être long, d'autant plus qu'on a un peu plus de temps, puisqu'on on dispose du temps de parole de Pierre Larouille. Alors, avant de passer…
Qu'on lui volera.
Oui, il ne mérite pas de l'avoir, il nous a lâchement abandonné. Juste une question avant de passer la parole à Léonore, mais Est-ce que le système français n'est pas quand même, le système juridique français, le système constitutionnel français, n'est pas obsolète, notamment pour faire face à ce type de situation? Vous vous souvenez, en 64, alors Léonore, qui est beaucoup plus jeune que nous, ne s'en souvient pas, mais Pierre...
Je resterai discret.
Voilà, Jean-François, oui. François Mitterrand, qu'est-ce qu'il écrit en 64? Il écrit le coup d'État permanent. Et il pointe des dérives, et elles sont les suivantes. Une concentration du pouvoir dans une seule personne, une prise de décision sans concertation et des abus de pouvoir. Est-ce que c'est pas vrai aujourd'hui? Est-ce que c'est pas tout à fait de situation?
Alors, on y reviendra certainement quand on parlera de la sécurité globale, parce que ça s'inscrit aussi, tout semble-t-il, dans cette dynamique-là. Oui, bien sûr. Enfin, c'est d'autant plus notable que le général de Gaulle, qui était quand même la figure emblématique de ces mesures-là, puisque c'est lui, les articles de la Constitution qui permettent d'avoir des pouvoirs exceptionnels, des choses comme ça. J'ai été jeune sous de Gaulle, je ne souhaite pas aux jeunes d'aujourd'hui d'y revenir, mais il faut noter au passage que ça a été utilisé avec précaution, avec la main qui tremblait, comme on dit de façon un peu. Mais même si, alors, si Mitterrand, dans le coup d'État permanent, stigmatise la Ve République, c'est de ça dont il parle, la Constitution de 1958 et le coup de force légal qu'a représenté l'arrivée de l'accession de De Gaulle au pouvoir, tout ça a été quand même, pendant toute une période, utilise, même si c'était parfaitement condamnable, utilisé avec précaution. Ce qu'il y a de terrible aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que ces états d'exception deviennent l'ordinaire de notre fonctionnement. Voilà. Et que nous sommes effectivement, pour le coup, dans un coup d'État permanent, mais qui n'est plus un coup d'État, puisqu'il semblerait que ce soit... Alors, je vais faire un jeu de mots un peu lacanien, j'en profite que Pierre Larouille ne soit pas là. On a l'impression que ce soit l'état de l'État aujourd'hui, cette dimension exceptionnelle. C'est vrai qu'il va falloir quand même y revenir dessus.
Léonore.
Alors, concernant le vaccin et le confinement et aussi le déconfinement, parce que bon, on est dans cette phase également, c'est vrai que dans le discours de Macron, les gens ils s'attendaient à des choses plus concrètes. C'est-à-dire qu'on parle d'une crise sanitaire, il y a une grande différence de premier confinement. Premier confinement, c'était plus dur, plus de contrôle. Ce deuxième confinement, on ne dirait pas qu'on est véritablement en confinement. On voit des gens dans la rue normalement, avec des gens qui portent des masques, des gens qui ne le portent pas. Il n'y a pas un vrai respect au niveau des règles sanitaires. Mais je crois qu'il faut se poser la question du comportement des gens. C'est-à-dire qu'ils nous importent des papiers, plutôt des attestations, que je crois que la façon comme on a été amené, on dirait qu'on doit accepter tout. Des attestations que parfois je ne vois pas une vraie application, c'est-à-dire que les gens, il faut sortir avec un papier pour démontrer qu'on va en course, et là maintenant avec les nouvelles règles, il va falloir montrer des tickets d'achat. On parle d'un allègement, mais je crois qu'il n'est pas, c'est pas clair. Si on parle dans le monde d'un comportement, les gens pendant les fêtes Noël ou dans les vacances de Noël, qu'est-ce qui va amener dans la vie des Français qui sont habitués à faire la fête, à se réunir en famille. Donc c'est une stratégie comme on dirait, moi je personnellement ça, c'est-à-dire qu'on est amené à assister à des réunions à limite des personnes, mais pour des autres réunions les choses sont plus libres. Donc c'est incongruent parfois, je trouve. Au niveau familial, on ne peut pas se réunir parce qu'on est trop proche, mais pour faire des réunions ou peu importe, mais il n'y a pas de limite, soi-disant des limites, mais je ne comprends pas très bien les règles. Donc, je crois qu'il y a un manque de communication pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Au niveau de déconfinement, on va passer à une phase de déconfinement à partir de cette semaine. Mais il y a les fêtes de Noël qui arrivent, donc qu'est-ce qu'il faut faire? les gens sont dans le flou. Au niveau des commerces aussi, les gens ne peuvent pas ouvrir. Une aide financière, mais ce n'est pas clair non plus. Tout le monde n'a pas le droit d'accéder à ces sortes d'aides. Et au niveau de la stratégie de vaccination, on parlait hier justement, parce qu'ils vont mettre en place une stratégie pour que les gens puissent se vacciner, mais est-ce que c'est obligatoire? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne sera pas d'accord en disant « cette vaccin, ce n'est pas bon pour ma santé, pour une relation, quelque chose ?» Et est-ce qu'ils vont endurcir aussi les règles au niveau du travail? Donc, je me pose des questions par rapport à la stratégie de vaccin, à la façon dont on va être amené, comment ils vont nous obliger, on va dire comme ça, à avoir ce vaccin, mais aussi la façon dont la société se réorganise. On trouve qu'on est dirigé comme un enfant. On a la liberté, c'est-à-dire qu'il faut réorganiser la société au niveau commercial aussi pour que les gens se rendent compte. Et je crois que les stratégies, elles sont plus amenées dans la peur. D'ailleurs. Et cette peur, ça fait que les gens, ils vont plutôt ne pas respecter les règles. Parce qu'il y a aussi une conséquence sanitaire et psychologique. Les gens, aujourd'hui, ils sont dans un état de faiblesse. Il y a des gens qui n'ont pas assez les moyens pour vivre. Il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens pour même pas continuer leur vie quotidienne. Donc, pensons plutôt, disons au gouvernement, passer notre stratégie. Moi, je pense aussi aux étudiants, qui en ce moment, certaines universités, ils ont des étudiants qui sont enfermés, qui n'ont pas les moyens de finir ces études. Ils n'ont pas les moyens de se payer Internet. Certes, ils ont mis en place, les universités, des ordinateurs et des forfaits pour les aider, mais ce n'est pas assez. Moi, je crois qu'il faut nous réorienter, pas dans la peur. Les gens ils peuvent prendre conscience et ils peuvent être responsables de leur comportement parce qu'on est aujourd'hui contrôlé comme si on est des enfants.
Oui, des responsabilisations. Précision quand même que le vaccin n'est pas obligatoire. Il y a eu quelques articles assez intéressants dans Le Monde sur la réaction par rapport à ce vaccin en France et également à l'étranger. Et il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens réticents au vaccin, réticents parce oui. que, d'une part, certains, il y a le déni de la maladie et de ses risques. C'est assez minoritaire. Il y a les complotistes qui viennent se greffer là-dessus. Alors, complotiste, c'est un mot gentil. Moi, personnellement, j'en emploierais un peu plus court, en trois lettres. Mais bon, ce serait peut-être exagéré.
On est toujours le complotiste de quelqu'un.
Voilà, c'est ça. Tout à fait, Jean-François. Le problème du vaccin, c'est qu'on ne sait pas s'il est efficace. On ne sait pas combien de temps il va durer. Enfin, son effet va durer, c'est-à-dire la protection qu'il prétend assurer va durer. On ne sait pas s'il peut avoir des effets secondaires. S'il y a des effets secondaires, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas assez de recul, évidemment, il n'a pas été testé. Donc, il y a beaucoup de gens, puis il y a les anti-vaccins habituels qui, pour des raisons qui souvent d'ailleurs m'échappent, mais il faudra que je me renseigne, sont contre les vaccins par principe. Donc, face à ça, si une partie du pays, parce qu'il semblerait que ça s'établisse à 50-50 pour la France, si une partie du pays est vaccinée et pas l'autre, quelle est l'efficacité du vaccin? Et derrière,
bien sûr. Il faut rappeler que c'est le propre d'un vaccin de se protéger, de protéger les autres. C'est-à-dire oui. que c'est toujours c'est un fusil à deux coups, quoi. Hein. C'est, voilà, et les deux sont indissociables.
Mais si une partie est vaccinée et pas l'autre, je pense que la partie qui va se faire vacciner peut se poser des questions sur ses concitoyens, sur leurs responsabilités et sur la façon dont ils voient les relations entre nous. Parce que si je refuse de me faire vacciner, potentiellement je peux être un vecteur de contamination pour les autres. Ce n'est pas une attitude très, comment pourrais-je la qualifier? Je ne vais pas dire fraternelle, il y a longtemps qu'il n'y a plus de fraternité en France.
Ce n'est pas très citoyen, on dirait, du côté des associations.
Oui, c'est...
Léonore.
Ce n'est pas très citoyen, mais on a la liberté aussi de choisir. C'est-à-dire qu'il faut avoir des autres moyens. Il y a un vaccin, ok, je suis d'accord, on est d'accord, mais il faut savoir qu'au niveau des crises sanitaires, on est en train d'évoluer. C'est-à-dire que ça peut changer du jour au lendemain en disant que maintenant, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, voilà, vous êtes enfermé. On ne sait pas quelles sont les mesures et où on va. C'est très incertain. aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut changer d'ici quelques jours.
Ce n'est obligatoire apparemment nulle part en Europe, et je pense que les dirigeants se posent beaucoup de questions, les dirigeants européens, parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus en capacité d'imposer ce type de mesures, ce qui peut-être en dit long sur la façon de gérer le pays. On n'est pas en Chine, autrement dit. Et n'étant pas en Chine, c'est un peu chacun fait un peu ce qu'il veut.
Et je dois avouer que personnellement, je suis relativement content de ne pas être en Chine de ce point de vue-là.
Oui, on y arrivera peut-être un jour, autrement, on voit les choses. Nous allons en parler dans notre deuxième sujet. Cela étant, c'est vrai que ce vaccin pose quand même question, qu'un certain nombre de scientifiques et même de médecins ont dit « moi, je ne me ferai pas vacciner », et que la confiance n'est plus là. Le problème, c'est la confiance. Les gouvernements, mais singulièrement le gouvernement français, a perdu la confiance de beaucoup de concitoyens, et sans confiance, on a quand même un peu de mal à faire front uni dans une période pareille.
Je pense que en politique, le terme de confiance, ça a un nom, ça s'appelle la légitimité. On n'a pas confiance que les décisions et les positions, de mon point de vue, autant que les décisions ne paraissent pas légitimes à bon nombre de gens. C'est-à-dire, pour le dire autrement, aujourd'hui, le gouvernement et l'épisode d'excès, comme ce qui est en train de se passer concernant l'épidémie, Léonore, moi je pense je suis d'accord avec elle sur la complexité de la situation. Le contexte sera extrêmement intéressant dans les années à venir si nous sortons de l'épidémie. Moi, je ne le verrai peut-être pas, mais Jacques Vernier non plus, peut-être qu'on en le verra. Mais ce sera certainement une période intéressante à étudier en Sciences Po, en sociologie ou en histoire, parce qu'on est quand même dans une situation un peu paroxystique de ce point de vue-là. On a effectivement un gouvernement qui n'est pas reconnu comme légitime pour incarner l'intérêt général. C'est l'intérêt général qui n'est. Et on sait très bien que l'intérêt général, ce n'est pas que l'addition des intérêts particuliers, sinon ça fait des drôles de sociétés. C'est aussi quelque chose qui transcende les intérêts particuliers. Alors, je ne veux pas faire du Régis Debray à la petite semaine, mais voilà. Et or, nous sommes. Alors, c'est peut-être un des éléments de différence qu'il y a avec l'Allemagne, par exemple. C'est que nous sommes. Nous sommes dans un modèle d'organisation sociale dans lequel ça part du centre et où les décisions sont considérées comme légitimes parce qu'elles partent du centre. Voilà. Et on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans le contexte, alors moi je n'ai pas ici, ça m'a saisi parce que sur un certain nombre d'autres choses, ça paraît à la marge de ce qu'on est en train de traiter, mais extrêmement éclairant, c'est le débat. Sur la question de l'autorisation d'accueillir des fidèles pendant les messes. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu cette affaire-là.
À la messe, l'affaire, oui.
Voilà, voilà. Et il y a une d'accueil dans le cadre du. Pas du déconfinement, puisqu'il ne faut plus parler de ça, puisque le déconfinement a été un échec, on va parler. Voilà. Les jeux, la messe particulièrement, mais ce serait intéressant de. Voilà. On a été limité à l'accueil de 30 personnes. Voilà. Et le Conseil d'État vient de casser cette décision, vient de retoquer cette décision. Et donc, le gouvernement va être obligé de revoir sa copie de ce point de vue-là. Mais. On a vu réapparaître à cette occasion-là tout le débat autour de la légitimité que pourrait avoir l'État à donner des limites aux libertés individuelles. Donc, la vaccination, c'est la question des libertés individuelles, mais même des libertés entre guillemets collectives, c'est-à-dire la liberté qu'ont les croyants de faire des choses qui sont des choses collectivement. On peut prier chez soi, mais la messe, c'est un acte qui est un acte collectif. Autrement dit, on est aussi dans un entrechamp du religieux et du politique, Donc d'ailleurs, pour le moment, les sociologues et les politiques ne parlent pas, préfèrent se centrer sur ce choc qu'il peut y avoir entre, par exemple, l'islam et la République. Mais là, on est quand même quelque chose entre l'Église. Hein. J'ai même entendu un homme de l'Église disant, moi, quand ça se conduit entre la loi du monde, voilà, comme ça, et la loi de Dieu, je choisis la loi de Dieu. Voilà. Donc on est, et on n'a plus, pour le moment, ou difficilement, d'un État ou un gouvernement qui soit en capacité de réguler ça et qui paraît légitime à tout le monde.
Ce que vous venez c'est compliqué. Ce que vous venez de rappeler comme réflexion, Jean-François Mignard, préférer la loi de Dieu à celle de l'État rapproche ce catholique des islamistes.
C'est ce qu'on appelle le communisme, c'est-à-dire c'est de prôner le fait qu'effectivement la loi de ma communauté est supérieure à la loi qui est la loi de la société. Voilà. Bon, bien sûr. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de... il faudrait prendre du temps pour aller explorer cette question-là, mais je trouve qu'elle est assez symptomatique aujourd'hui d'une remise en tension. Effectivement. Et là, on a un gouvernement qui est un gouvernement qui des fois se peint alors, et qui nous voit, hein, c'est-à-dire qu'on voit que ça essaye de discuter le coup. Hein. On a que le vapeur ne serait pas obligatoire. C'est compliqué, y compris constitutionnellement, d'arriver à faire passer des décisions comme celles-là. Elles sont compliquées. Hein. On a des vaccins obligatoires en France pour pouvoir accueillir des enfants. Si ce sont des enfants dans des collectivités, par exemple, pour aller à l'école, il faut être à jour de ces vaccins. Mais c'est pour l'intérêt général. Voilà. Et on voit bien que ça. Alors, on est en difficulté en France. De cet égard, l'Allemagne est beaucoup moins État fédéral, hein, est beaucoup moins en difficulté. Tout à l'heure, vous parliez de Mme Merkel. Alors bon, au-delà de la personnalité de Mme Merkel, que je ne connais pas et avec qui, a priori, comme ça, je n'aurais pas forcément envie de passer les vacances, mais ça me regarde, et elle aussi d'ailleurs. J'imagine qu'elle ne désespère pas, mais au-delà qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai envie de dire, Angela Merkel, ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne est un État fédéral dans lequel le gouvernement, l'État, a appris à négocier avec des contre-pouvoirs territoriaux, mais aussi à des contre-pouvoirs sociaux, parce que la société civile est reconnue en tant que telle.
Et là, on a quand même l'impression que le système fédéral s'en sort quand même mieux, et que notre centralisation, le pilotage de la crise par le Conseil de défense sanitaire, c'est quand même assez caricatural. Ça illustre bien.
J'évoquais ça tout à l'heure, bien sûr. Ouais,
c'est vertical, c'est centralisé. On en revient finalement aux vieilles habitudes.
C'est opaque. C'est centralisé, c'est même opaque. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qui se passe. Donc, évidemment, allons-y du complotisme. Hein, je veux dire, chaque fois qu'on a la boîte de Pandore, c'est parti.
Bien, nous allons. Sauf que Léonore veuille rajouter quelque chose pour compléter.
Moi, je voulais vous en parler des vaccins et tout ce qu'il faut mettre en place dans les hôpitaux pour pouvoir garder les vaccins. Les hôpitaux ne sont pas équipés, donc ça veut dire que c'est un coût supplémentaire. Et moi, je me dis que les hôpitaux aujourd'hui ne sont pas forcément équipés hein, avec tout par manque de lits, par manque. Voilà, il y a des hôpitaux qui se plaignent parce qu'ils ne sont pas équipés. Moi, je pense au coût que ça va revenir, au prix. Juste pour laisser une question ou pour laisser une réflexion en disant, il faut qu'on revienne aux priorités. Il faut qu'on revienne aux priorités au niveau de nos hôpitaux, qu'ils soient équipés, pas forcément pour une vacance, mais ils soient équipés au niveau général. De plus en plus, on trouve que les hôpitaux manquent de personnel et le personnel se plaigne. Des appareils.
On a même du mal. J'avais fait une émission avec le professeur Alain Didier, qui est le patron du service de pneumologie au CHU Rangueil-Larrey, qui m'a dit « j'ai des problèmes de personnel, je n'ai pas assez d'infirmières, mais surtout je n'arrive pas à en trouver ». C'est-à-dire que sur le marché, entre guillemets, le marché du travail, il n'y a plus d'infirmières, il y en a même qui sont dans les services et qui démissionnent, qui s'en vont. On est dans un système français dont on s'est gargarisé, le fameux système de santé français, dont on s'est gargarisé, performance, patin couffin, etc. En réalité, les technocrates et les financiers l'ont tellement affaibli qu'aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même.
Justement, je voulais ajouter ça, laisser cette réflexion, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pense au fonctionnement de nos hôpitaux. Parce que, bon, on va être équipé pour les vaccins, mais...
Il faut en revenir au fait que la santé est un bien commun, que les vaccins sont un bien commun, ce qui a un véritable sens. On ne peut pas avoir une marchandisation au niveau de la santé, que ce soit en France, en Europe et même peut-être au niveau mondial. Mais ça, c'est un débat beaucoup plus vaste que beaucoup ne sont pas prêts à aborder. Si vous allez... Oui, si vous en êtes d'accord, l'heure tournant très vite, nous allons aborder le deuxième sujet, celui de la loi sécurité globale. On a déjà eu l'occasion dans la très courte émission 15 minutes là, que nous faisons pendant le confinement de s'en entretenir avec Jean-François Mignard. Alors, vous connaissez le sujet, le gouvernement a cru devoir proposer à l'Assemblée, qui par ailleurs lui est tout acquise. Autrefois, on disait les godillots, on ne le dit plus aujourd'hui. Donc, il a cru devoir proposer une énième loi sur la sécurité. Il existe en matière, il faut le savoir quand même, une foultitude de textes qu'il faudrait peut-être commencer par appliquer avant d'en concevoir d'autres et qui, au surplus, porte atteinte aux libertés des citoyens. Alors, la levée de boucliers tous azimuts a bien montré que beaucoup de Français n'entendaient pas tomber dans l'assoupissement béat, quand même, heureusement. Les manifestations, les différentes interpellations de la société civile qui s'est instantanément mobilisée ont montré qu'il y avait des résistances et que les gens avaient bien compris quel était l'enjeu. Les derniers exploits de la police, de notre police, qui est bien mal commandée, bien mal formée, bien mal encadrée, n'ont pas aidé le gouvernement. Je vais vous rappeler ce que disait le préfet Grimaud en 68. Il disait « Frapper un manifestant à terre, c'est frapper la République ». Il doit se retourner quand même quelquefois dans sa tombe, notre préfet Grimaud. Le président de la République, je pense qu'il a pris aujourd'hui ses manifestes, la mesure de l'effet désastreux de cette crise politique, parce que c'est une crise politique, et après avoir recadré son trait droitier, ministre de l'Intérieur, il essaye de rétro-pédaler sans trop perdre la face et surtout sans perdre le soutien d'une police dont les événements récents, notamment les Gilets jaunes, ont montré qu'il avait bien besoin et on ne sait pas quel sera l'avenir. Sur cette question, Léonore ?
Oui, c'est vrai que cette loi, elle a amené, beaucoup de contestations, beaucoup de manifestations. Ce week-end à Toulouse, et même la violence policière, on l'a vu la semaine dernière dans le cas de producteurs à Paris, qui s'est fait tabasser par la police parce qu'il ne portait pas de masque. Et dans le bâtiment, il y avait une caméra, donc ça a filmé tout ce qui s'est passé. On parle d'une loi de sécurité.
On vous perd un peu, Léonore, là. Tout le monde l'a compris, nous sommes en visioconférence, hein, seul moyen de bien travailler dans la période actuelle, en sécurité. Et nous avons parfois des petites pertes de son chez les uns et chez les autres, d'ailleurs. Donc, les auditeurs voudront bien nous en excuser. Léonore, peut-être, voyons, est-ce que c'est meilleur?
Vous m'entendez maintenant?
Oui, ou ça va, ça va. Continuez.
C'est vrai que l'ICA marche, c'est eux qui tiennent le projet aussi, plus ils sont alliés avec l'Agir. Et ces mesures de sécurité, ils font un débat parce qu'elles donnent la liberté à la police d'être plus violente, soi-disant pour la sécurité des gens. Le fait de ne pouvoir les filmer, de pouvoir intervenir à n'importe quel moment et surtout que la violence augmente et elle devient de plus en plus dangereuse, c'est des choses qu'il faut revoir parce que je disais tout à l'heure en disant de la peur, mais la confiance, la légitimité envers la police, avec nos autorités. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à la police d'intervenir et c'est une expérimentation de 300. Donc on va essayer pendant 300, c'est ça. Il donne pendant 300 la possibilité ou l'autorité à la police d'agir avec une certaine liberté de violence pour participer et qui pourrait, on va dire, constater des infractions, des occupations illégales, mais agir avec la violence. Donc, ça va devenir une guerre. une guerre entre les citoyens et la police. Les gens ne peuvent pas filmer, les gens ne peuvent pas montrer, donc on devient des, on est plus et plus contrôlé. Donc, on part d'un principe que soi-disant, on est protégé, mais cette protection il nous amène à une violence, à un manque de respect de notre liberté en tant que citoyen. Et donc, les actes terroristes, où nous amènent dans la voie des actes terroristes, comme il s'est passé il y a quelques temps, les gens ils ne pourront pas plus exprimer leur voix, plus exprimer leurs pensées, parce qu'ils vont être accusés, ils vont être incarcérés après, peut-être. Donc, il y a une question qui se pose dans la violence, elle augmente, et cette violence, il faut faire attention, parce que si on part à des manifestations et qu'on se fait tabasser et que les gens ne respectent pas notre liberté, on n'est pas dans une liberté, on n'est pas dans une volonté d'exprimer ou une volonté de dire ce qu'on pense et de s'associer avec une pensée politique. Donc la police, vraiment, elle prend une place, mais des violences. Et on l'a vu aussi avec les gilets jaunes. Comment les gens, ils sont contestés, mais les gens se font de façon violente. Donc on dit qu'on est, parce qu'on est en confinement, on doit faire attention, mais moi je le vis samedi, et même d'ailleurs pas très loin de chez moi. La police poursuivait des gens, ils envoyaient des gaz lacrymogènes, et même ils avaient encore des gens par terre. Donc, où on va avec ces situations, avec la police, avec cette loi de sécurité, mais je ne crois pas qu'elle soit la meilleure option pour nous, pour nous donner une sensation d'être dans un pays en sécurité.
Jean-François.
Oui, alors, il se trouve que j'ai l'occasion régulièrement de m'exprimer dans l'espace médiatique et pas que sur cette question-là. Donc, je ne vais pas. Enfin, je veux pointer l'intérêt que peut représenter, je trouve, la réaction de Léonore, hein, au-delà de l'intérêt que représentent toutes les réactions de Léonore dans nos débats, bien sûr, mais là, particulièrement lié au fait que Léonore est franco-colombienne, c'est-à-dire qu'elle parle de quelqu'un qui est à la fois vit dans notre pays, mais aussi il y a des références qui sont des références par ailleurs. Tout ça pour dire qu'au-delà de ce que j'entends aussi chez elle, c'est ce que j'entends ou ce que je lis venant de gens qui sont de l'étranger. C'est intéressant, oui. Parfois, quand on parle de nos problèmes à nous, hein, comme on dit, et de nos réalités, comment ça peut être regardé depuis l'étranger. Aujourd'hui, d'une certaine manière, la séquence, comme on dit, hein, est assez dévoilante sur la réalité française, c'est-à-dire que le regard que portent les étrangers sur la France est en train de changer. Ce qu'on lit dans la presse anglo-saxonne, mais pas que, hein, dans la presse européenne, compris, je dis anglo-saxonne, c'est américaine, je fais référence au débat entre le président de la République et la presse, chose d'ailleurs que j'ai jamais aux États-Unis au passage, hein, ce qui montre bien que notre modèle à nous est un peu particulier. La France est en train de se dévoiler, de se montrer comme étant un État qui est un État. Alors, on ne va pas dire une démocratie libérale, mais est en train de rejoindre, effectivement, au-delà de la question des images, hein, parce que voilà, c'est très à les images, on l'a vu, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière les images. Le président de la République est choqué par les images. Moi, ce qui me choque, c'est les comportements. Le président de la République, visiblement, c'est l'image. Je comprends, mais en termes de marketing politique. Et intéressant, c'est que le président de la République ne s'en arrête pas au fait d'être choqué par les images, mais qu'il soit choqué par ce qui a produit les images. Et ce sur quoi il s'est tué, lui comme d'autres d'ailleurs, comme ses prédécesseurs à des gouvernements précédents, s'est tué sur la dérive qui petit à petit nous en amène où nous en sommes. Je rappelle que la violence dans les manifestations, dont parle cette proposition de loi, hein, qui est une proposition de loi fourre-tout, qui à l'origine, hein, était censée, hein, tout à fait au départ, quand on s'intéresse à cette proposition de loi, c'était mettre de l'ordre dans les rapports un peu compliqués qu'il y a en France entre police nationale, police municipale, gendarmerie, et y compris compagnie privée d'intervention, de sécurité, avant le mondial, avant des trucs comme ça. Voilà. Et petit à petit, par opportunité, par un système que connaissent bien d'ailleurs, hein, que connaissent bien les gouvernements et les majorités goudillotte, comme disait les coquins, un petit doigt sur, la, sur le tailleur Chanel ou la couture du pantalon. On fait du fourre-tout législatif qui permet de faire passer des choses dans une loi, voilà, hein, et on rajoute des choses. Voilà. Au passage, l'article, le fameux article 24, j'en donne un exemple, c'est un peu technique, hein, mais le fameux article 24, celui qui porte sur le fait de ne pas pouvoir, avec intention malveillante, filmer et diffuser des images de policiers, s'il est retiré, parce que ça tergiverse, ça essaye de mégoter, hein, mais ils nous le fourgueront dans une loi qui va arriver dans les semaines qui viennent, qui est la fameuse loi sur ex-séparatisme et nouveau respect des valeurs de la République. Hein, on voit bien comment le gouvernement, par des jeux de mistigris, fait passer des mesures qui sont des mesures, des espèces de paquets, comme ça informe, que ce sont des projets de loi pour le gouvernement ou délègue des parlementaires pour faire des propositions de loi qui permettent au passage, d'ailleurs, c'était quand même aussi le but de la manœuvre, de bénéficier du fait qu'il n'y a pas d'étude d'impact aujourd'hui sur cette loi, par exemple. Le dresser sur ses ergots, notre ministre de l'Intérieur fait référence à des faits épars, et d'ailleurs quelques-uns extrêmement hors sujet par rapport à la question, mais il n'y a rien aujourd'hui qui nous dit que cette loi a une justification qui permettrait qu'on serre davantage la vis au niveau des libertés, alors qu'on a déjà un article 433-3 du Code pénal qui permet d'arriver à cette question-là, absolument. Jacques, la dernière. Bon, je reviens à mon propos initial. Les images sont. La logique, c'est le fait, effectivement, qu'on a fait de la police au rabais, hein, c'est-à-dire qu'on a coupé dans les effectifs, on a sorti la police de proximité, on l'a fait fonctionner aux chiffres. Hein, à cet égard, la période Sarkozy est une période bénie de ce point de vue-là. Hein, d'ailleurs, avec une attitude bêtement pavlovienne de certains syndicats de police qu'on retrouve à vomir dans l'espace public encore aujourd'hui, hein, qui est de se faire acheter un peu de revalorisation salariale, hein, contre le fait qu'on baisse l'encadrement et petit à petit, à terme, on va rationaliser les choses de manière à mettre la technologie à la place des hommes. Dans cette proposition de loi, il y a les drones, il y a les caméras piétons, etc. etc. Voilà. Donc, cette logique-là, qui est cette logique d'une police qui est une police au rabais, en dehors du contrôle des citoyens, hein, qui est une police de la plutôt pénale, où on va faire du chiffre, hein, c'est ça la police pénale, c'est celle qui va aller interpeller des gens dans les manifestations plutôt que de maintenir l'ordre et garder la paix. Voilà, hein. Et donc, on a mis de la BAC dans les manifestations. Et donc, on a créé des profils professionnels qui sont des profils professionnels de l'affrontement et de l'arrestation, mm-hmm, au détriment de profils qui sont des profils qui sont celles de sauvegarder la paix publique sur l'espace public. On parlait tout à l'heure de l'Allemagne, ça vouloir en faire le paragone de tout. Hein, c'est intéressant d'aller voir en Allemagne quelle est la théorie quelle est la doctrine du maintien de l'ordre. Voilà. En France, on a une doctrine du maintien de l'ordre, hein, qui est une doctrine de l'affrontement. Hein, le ministre de l'Intérieur vient de nous sortir il y a quelques semaines, hein, un nouveau schéma du maintien de l'ordre, hein, qui est délibérément un truc dans lequel on est dans l'affrontement. Affrontement, alors, je vais essayer d'être rapide, l'affrontement qui n'est pas le propre. Et là aussi, faisons un peu la généalogie de ces choses-là et attribuons aux gens un peu la responsabilité, qui n'est pas le propre ni de Sarkozy, pour le coup, même s'il était très, très partagé sur ce genre de choses, mais qui n'est pas le propre que de Macron. Hein. Les affrontements dans les manifestations, ça date de ce qu'on appelle les lois de travail. Hein. Nous, on a vu la mise en œuvre d'une stratégie de maintien de l'ordre dans l'espace public, à l'époque, rappelez-vous, des lois de travail qui étaient des lois massives dans lesquelles on nassait les gens, où on dissuadait les gens de venir exprimer leurs opinions dans l'espace public. Ça a donné des morts. Hein, pas loin de chez nous, à Sivens, ça a donné des morts. Hein, Rémi Fraisse est mort à Sivens suite à une longue histoire d'affrontement dans un espace qui était un espace public, rural certes, mais pas urbain. Mais, et le ministre de l'Intérieur, c'était Manuel Valls, qui, de ce point de vue-là, n'a pas bougé de la logique de ses prédécesseurs sous l'autorité d'un président de la République qui, à l'époque, n'était pas Emmanuel Macron. Voilà. Donc, alors, là, maintenant, les choses apparaissent. Maintenant, les choses apparaissent et les gens s'insurent. Je pense que...
Jean-François, nous avons perdu. Allô, allô, Jean-François. Bon, je pense qu'il va revenir. Donc, on a bien compris l'essentiel du discours, oui, réformer le fonctionnement de la police, méthode, formation, encadrement, méthode surtout, Jean-François y a insisté, réforme du contrôle de cette police, et notamment de la police des polices, qui a un fonctionnement extrêmement surprenant et qui, a priori, ne joue pas véritablement son rôle. Pour conclure sur cette question, Léonore.
Je voulais juste ajouter ce que Jean-François Mignard venait de partager, c'est la façon comment la police il recrute les nouveaux policiers, je ne sais pas si on peut dire de cette façon. C'est-à-dire que qui sont les policiers, en fait, derrière leur fonction? Parce qu'on va de plus en plus à être violents, enfin, les bases sont maintenant très violentes, et revoir qui sont les gens qui occupent des postes en tant que policiers, pour éviter des affrontements entre les citoyens et la police. Je voulais juste ajouter ça.
Bien, je vous propose, nous reviendrons sur cette question parce qu'elle est loin d'être réglée, elle pose d'énormes problèmes démocratiques à l'évidence et de liberté, donc nous y reviendrons certainement dans les semaines qui arrivent. Troisième sujet, l'accord ASEAN et l'encerclement par la Chine. Alors, pendant que la France, vous l'avez constaté, s'englue dans ses travers bureaucratiques, sa centralisation, on l'a dit, la stupéfiante naïveté, voire l'incompétence de certains de ses dirigeants, le monde avance, se structure et son centre de gravité est à présent l'Asie, comme l'a bien montré les avancées de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, c'est ce que signifie ASEAN. Alors, à l'instigation de la Chine, on a créé une zone de libre-échange, une très vaste zone de libre-échange entre 10 États qui constituent l'ASEAN, plus, alors je voulais citer les États, Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei, ça c'est l'ASEAN, auxquels se sont ajoutés la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc vous voyez, ça représente 30% du PIB mondial, un marché de 2 milliards d'habitants et qui aujourd'hui se classe très largement devant les USA et devant l'Europe. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, je les ai, mais j'ai vérifié. La Chine a réussi son pari et comme l'a écrit un professeur de géopolitique de la Business School de Singapour, la Chine consolide les ambitions géopolitiques régionales autour des routes de la soie qu'ils ont initiées il y a déjà quelques années. Alors l'Inde, qui est un marché quand même de 1,4 milliard d'habitants, s'est retirée au dernier moment de cet accord, craignant que les produits chinois n'envahissent son territoire, mais l'Inde peut y revenir. Et c'est un accord, alors là, évidemment, c'est pas du multilatéralisme pur, hein, c'est surtout un accord commercial, un accord douanier, et ça ne vous étonnera pas, mais ça exclut cet accord, tout ce qui touche à la protection des travailleurs et tout ce qui touche à l'environnement. Ce n'est qu'un accord commercial avec des droits de douane réduits de 90%. Alors, un certain Alain Pierrefitte, pardon de citer toujours des vieilles lunes, mais bon, c'est resté quand même un best-seller, avait écrit « Quand la Chine s'éveillera ».
La Chine s'est éveillée.
Voilà, la Chine s'est éveillée, mais il a dit « Quand la Chine s'éveillera », il ne faudrait pas que la phrase suivante soit « L'Europe s'endormira ». Jean-François.
Quand j'ai regardé dans le détail cette affaire-là, moi je dois l'avouer, et je pense que c'est. Je bats ma coulpe, mais je pense que c'est intéressant, au-delà de mes péchés, mais t'es quand même passé de manière importante à côté, autrement qu'on ne pas la une ni les manchettes des journaux chinois. Alors, c'est vrai que c'est rarement le cas pour des nouvelles de type économique, mais voilà, donc toutes ces choses-là se mettent en place, voilà, sans qu'on y prête attention. Alors, moi, j'ai été évidemment extrêmement. On exclut le droit social et on exclut l'avenir écologique de la planète de cet accord-là. En gros, c'est du capitalisme pur jus, pur sucre, je veux dire, dans toute sa crudité. Et des fois, ben, vous savez, je vais citer Péophyte, je vais citer un dirigeant chinois, c'est qu'importe que le chat soit blanc ou noir,
pourvu qu'il attrape des souris. Le regretter Mao Tse-Tung.
Voilà. C'est Mao Tse-Tung qui l'avait dit, paraît-il.
On ne vous entend pas bien, Jean-François.
Ah.
Qui l'a dit ? Reprenez votre phrase là.
Je pense que c'est Deng Xiaoping qui l'a dit.
C'est plus ancien, je crois. Hein, c'est plus ancien. Mais bon, on vérifiera.
Bon, on va pas de clusterie à l'antenne. Voilà.
Si je puis dire, ne chinoisons pas.
Voilà. La question. Il ne faudrait pas que l'Europe s'endorme à un moment où elle soit éveillée, comme l'avait évoqué notre excellent intérieurophyte, ministre de l'Intérieur et de la loi sur la délinquance de l'époque. Avec quelles armes, comment s'opposer ou comment vivre avec, sachant que c'est difficile de vivre avec un poids lourd comme ça, géopolitique, qui s'inscrit de manière complètement délibérée dans un capitalisme pur jus. J'allais dire résister, voire je pense qu'il s'agit de combattre, hein, parce que le capitalisme ne cohabite avec rien. Il a vocation, pour le coup, à n'avoir aucune perspective d'avenir et à vouloir occuper par ailleurs toute la place dans l'instant. Voilà. C'est quel est notre modèle à nous, qui est un modèle, effectivement, qui est un modèle qu'on pourrait imaginer avoir été le modèle européen, hein, c'est-à-dire par rapport à ça, qu'est-ce qu'on pèse et qu'est-ce qu'on choisit de peser de manière à faire pièce à ce qui est en train de se passer. La deuxième chose, c'est pas ma spécialité, mais ce qu'il faudra regarder. C'est si cet accord, qui est un accord commercial, hein, en gros, on va les barrières douanières et laisser vivre, laisser passer, comme disait l'autre, voir ce que ça peut produire comme effets qui sont des effets sociaux et sociopolitiques. Pour le moment, tout ça tient parce que la population, on lui a acheté la liberté contre la possibilité de consommer. Est-ce que ça va tenir longtemps ? Ça tient, ces choses-là, le temps que le delta entre la pauvreté initiale et la richesse progressivement acquise permet de compenser l'absence de liberté. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le moyen et long terme que ça s'inscrive. Mais voilà.
Je précise que la chancelière allemande, Mme Merkel, qui exerce la présidente tournante de l'UE, a immédiatement réagi à cet accord. Côté français, par contre, c'est le grand silence de la part d'Emmanuel Macron. Ce président a donné un très long entretien à Grand Continent, un très long entretien qui se voulait visionnaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule fois mentionné cet accord. Donc, il y a visiblement, côté français, un problème de perception du danger que pourrait poser l'Asie pour la compétitivité et la croissance de l'UE. Pour terminer sur cette question, Léonore.
Alors, j'ajoute tout simplement par rapport au projet de la soie, parce que c'est un projet chinois, qu'en 2013, ils ont décidé de construire, de commencer les bases pour ce chemin de la soie, dans lequel ils vont investir dans plusieurs endroits, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe aussi. Mais donc, je crois que cet accord, ça va concrétiser encore plus davantage ce qui était commencé en 2013 pour la Chine. Donc, je crois que c'est une position géopolitique, mais géostratégique, parce que les pays qui se sont mis en accord, ça va permettre de devenir un géant économique, mais aussi de permettre aux Chinois et à chaque pays de se repositionner et d'être un empire, si je peux le dire comme ça, économique, des prêteurs d'argent pour le monde entier, si on peut dire comme ça. Des gens qui parlent les moyens pour prêter, pour investir. Et c'est un sujet à suivre. C'est vrai qu'on a trop parlé de cet accord, mais c'est bien qu'on puisse avoir un regard plus profond parce que ça va nous amener, ça va nous éclairer aussi parce que par rapport à la position de l'Europe, comment l'Europe va se positionner. C'est vrai qu'il y a un côté ils endorment un peu. Mais c'est-à-dire que le projet de la soie devient de plus en plus concret. Pas simplement au niveau de la construction de chemins, mais aussi au niveau des acteurs économiques qui se sont mis en place pour investir et que ce projet devienne une réalité.
Oui, alors je précise que je reviendrai longuement sur cette question. Vendredi, nous avons Economica, l'émission économique de la station que j'anime avec Maxime Maury, notre économiste maison et professeur d'économie. Et je reviendrai longuement sur ce sujet qui me semble être fondamental au jour d'aujourd'hui. Je vous propose, l'heure étant très avancée, de passer à nos dernières rubriques. Alors, les brèves, qui veut commencer? Jean-François, une brève?
Oui, une brève pour sourire, c'est ce qui m'a marqué dans l'actualité, pour sortir des sujets un peu grave, quoique, et c'est le contexte européen. La brève sur l'eurodéputé du parti d'Orban, en Hongrie, qui vient de démissionner après une soirée de débauche sexuelle en confinement. Ça ne manque pas de sel. Et quand on sait ce qui se passe en Hongrie, quand on entend ce qu'on entend, comme disait le regretté Jacques Chirac, et qu'on voit ce qu'on voit, on n'a rien de penser ce qu'on pense, et c'est assez rigolo, comme ça, je le dis au passage. Cette nouvelle-là, c'est un clin d'œil sur... voilà. La droite la plus ferme, de temps en temps, quand même, si j'ose m'exprimer ainsi, sera mouline.
Eh oui, s'il y a des débauches sexuelles, il faut bien que la droite qui y participe soit ferme. Léonore.
Alors, je voulais profiter ces moments pour faire un appel à des gens à faire attention par rapport à leur achat sur Internet. Il y a beaucoup d'arnaques en ces moments, mais je pense à deux points. Première, c'est les gens qui achètent sur Internet, ils ne font pas attention, ils achètent tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'en ce moment, il y a eu un boom sur Internet par rapport à des produits non essentiels, parce que c'est là où les gens profitent pour acheter. Et en même temps, les commerçants, comment ils se réorganisent pour proposer des produits et des achats en sécurité. Donc, justement, il y a eu hier des arnaques, il y a quelqu'un qui dénonçait par rapport à des arnaques qui se font sur Internet. Donc, c'est un appel que je fais aux gens de faire vraiment attention. Il y a des choses qui sont mises en place pour la sécurité, mais donc il faut faire attention.
Merci, Léonore. Moi, juste un petit mot sur la pollution des véhicules en général. Vous savez que les particules fines tuent environ 60-62 000 personnes en France. Bon, essentiellement, bien sûr, on prend plus de risques en ville et dans les grandes cités qu'à la campagne ou dans les villes moyennes. Et une étude vient de montrer aujourd'hui qu'en dehors des particules fines qui peuvent être émises par certains carburants, notamment le diesel, les déchets de pneus, parce que quand vous freinez, il y a des microparticules du pneu qui s'en vont. Également, les plaquettes de frein, pareil, c'est le même phénomène. Eh bien, ces microparticules, on a découvert qu'elles sont extrêmement dangereuses pour les poumons et pour tout le système respiratoire. Ce qui veut dire quelque part que finalement, on nous parle beaucoup de véhicules électriques, il y a d'autres inconvénients, je ne vais pas en parler ici, mais ce n'est peut-être pas aussi une solution merveilleuse parce que ce n'est pas l'énergie, les rejets de l'énergie, la pollution de l'énergie qui provoque peut-être tous les nombreux décès que nous connaissons en France. Rubrique « Ça va mieux », Léonore, un « Ça va mieux » ?
Alors, Yann. Oui, ça va mieux.
Ça va mieux, on est content.
il y a une entreprise toulousaine qui va faire un appel pour aide, on va dire, parce qu'ils vont lancer un motard. Donc, c'est un beau projet Si vous entendez cette émission, n'hésitez pas à aider. Parce que,
pour des motards, je sais pas, on a eu une légère coupure. Léonore, vous pouvez repréciser l'activité de l'entreprise?
Je disais qu'à Toulouse, en ce moment, il y a une entreprise, une start-up toulousaine qui va lancer une campagne de financement pour un produit, pour vendre son produit, un produit unique. C'est un pantalon airbag. C'est un pantalon pour les motards qui va permettre de protéger les gens dans la route. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle pour cette entreprise.
C'est un cadeau à faire à Jean-François, hein, qui va se mettre à la moto, vieux motard que jamais, nous le savons bien.
Ah, c'est sûr.
Allez-y, quel est votre ça va mieux, Jean-François?
Rassurez-vous, je circule plutôt à vélo, et j'évite de freiner comme le conseille Jacques Lavergne, donc voilà. je ne prendrai pas la moto. Le ça va mieux, alors il est en lien avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure concernant la loi dite sécurité globale. Ça va mieux, je trouve que ça va un peu mieux, alors pour ce que j'en vois, puisqu'on m'en dit aussi des gens ailleurs. Ça va mieux parce qu'il me semble que on voit aujourd'hui se mobiliser concernant la question qu'est la question des libertés, des gens qui sont des gens qu'on ne voyait pas d'habitude. Hein, les manifestations contre cette proposition de loi amènent dans l'espace public, dans la rue, beaucoup de jeunes, notamment. Et ça me rassure, j'ai envie de dire. Alors, je ne me fais aucune illusion sur le fait que ces choses-là peuvent n'être que l'espace d'un instant, comme dit l'autre. Mais ça va mieux du côté de la citoyenneté et de la mobilisation contre les atteintes aux libertés. Voilà, ça fait, et dans la période un peu compliquée qu'on vit, je crois que même ça nous fait du bien.
Alors, pour ma part, je reviendrai sur le Conseil d'État qui vient de demander à l'État français de lui indiquer sous 3 mois, comme il entend respecter les obligations qu'il avait prises lors de la COP21, un certain nombre, il y a d'abord la commune de Grande-Synthe et puis un certain nombre d'associations se sont émues du fait que le gouvernement ne respectait pas ses obligations et les piétinait allègrement. Le Conseil d'État commence à mettre un peu la pression à l'État français, donc nous suivrons cette affaire parce qu'elle est d'importance. Dernière rubrique, le conseil culturel. Alors, puisque j'ai la parole, je la garde. Moi, je vais vous recommander 2 livres. Un, c'est celui d'Edgar Morin, le dernier d'Edgar Morin, qui a presque 100 ans, qui est un vieux sage, mais qui a un fonctionnement intellectuel. Voilà, un fonctionnement intellectuel parfait. Chez De Noël, il a écrit « Changeons de voix, les leçons du coronavirus », un petit livre, mais qui est très dense, qu'il a écrit avec la collaboration de Saba Abou Salam, et dans ce livre, eh bien, il nous parle de la nécessaire prise de conscience qui devrait être la nôtre face au coronavirus. D'où vient-il? Pourquoi est-il venu? Est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être presque un peu trop tard, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de changer de monde, temps de vivre autrement, avec d'autres valeurs? C'est pour lui une urgence. Je partage complètement son point de vue et beaucoup d'autres aussi. Changeons de voie, les leçons du coronavirus, Edgar Morin chez De Noël. Et puis également un livre qui ne manque pas de charme, c'est Muriel Barbéry qui l'a écrit. Là, on est dans tout à fait autre chose, mais il faut bien un peu de poésie, un peu de rêve. Ça s'appelle Une rose seule. Alors, je vous rappelle que Muriel Barbéry avait fait à l'époque un grand succès de librairie extrêmement mérité avec L'élégance du hérisson.
Ah oui.
Qui s'en souviennent. Un livre remarquable que personne n'avait vu d'ailleurs dans les critiques littéraires et autres. Et ce sont les libraires qui l'ont porté à bout de bras et qui en ont fait véritablement un best-seller, et c'était mérité. Eh bien, Muriel Barbéry nous revient avec Une rose seule chez Actes Sud. Ça se passe au Japon. Vous verrez, ça c'est merveilleux, c'est plein de poésie. On découvre le Japon, on découvre les valeurs du Japon, un peu ancestrales. C'est très, très agréable à lire et ça nous plonge dans un monde un peu onirique dont on a bien besoin aujourd'hui. Léonore?
Alors, j'ai 2. Et une qui est un peu rigolote parce que, bon, dans le contexte actuel, je ne sais pas comment ils s'organisent, mais il y a une séance de théâtre au boulevard des Minimes qui s'appelle On ne déprime plus à Toulouse. Donc, pourquoi pas, je vais essayer de voir si ça sera ouvert d'ici là-bas. Donc, à Toulouse, on ne déprime plus.
Voilà. On ne déprime jamais à Toulouse. Jean-François.
Jamais.
Alors, moi aussi, j'ai 2 livres, décidément, les grands esprits se rencontrent. Alors, ils sont, C'est étonnant, ils sont sortis quasiment en même temps, ils sont quasiment sur le même objet, ils traitent avec des angles d'attaque différents. Alors, c'est un peu austère, mais je pense que ça vaut le coup de le lire tant c'est d'importance. Un s'appelle Ce que l'école peut encore pour la démocratie de Philippe Mérieux. Ça s'adresse aux enseignants, mais pas que. Je rappelle qu'on sort quand même, qu'on est dans un contexte aujourd'hui aussi très compliqué sur la question de l'école, à la fois à l'interne, dans les rapports qu'elle peut avoir avec les élèves, les parents, mais aussi au regard de ce qu'on fait d'elle. Et en même temps, quasiment au même moment, François Dubé et Marie Durubella, qui sont deux sociologues, qui sont sociologues de l'éducation et de l'école en particulier, qui se tracent un sillon depuis des années extrêmement intéressant et qui sortent un ouvrage qui s'appelle L'école peut-elle sauver la démocratie? Vous voyez, c'est étonnant cette conjonction. Ces deux livres-là sont à lire, encore une fois, le confinement n'est pas complètement strict, mais si vous avez un peu de temps, ça vaut le coup, je répète, Philippe Mérieux, Ce que l'école peut encore pour la démocratie, et François Dubé et Marie Durubella, L'école peut-elle sauver la démocratie?
Merci Jean-François. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Pardon pour les liaisons imparfaites, pardon pour la qualité du son et les quelques coupures qui ont pu se produire. Merci Léonore, merci Jean-François. On souhaite une bonne route à notre ami Pierre, en route encore une fois vers Marseille.
Bonne route, Pierre.
Bonne route.
C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne avec à la réalisation et au montage Yanis Boudin, une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur le site Radio Occitanie et nous nous retrouverons, si tout va bien, dans mercredi en 15 pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité, belle journée à toutes et à tous.
Adéu.
Adéo.